Bitch, I'm in the field, nigga, call me Indiana Jones. Feel like Soulja Boy today, so kiss me through the phone. Feel like Usher yesterday in the shower, bitch, I was burning. This nigga really think he in Indiana, he not Indiana Jones. This nigga thought he bought a beagle, that nigga bought a dog. Tried to fit in a skinny hole while my dumb ass get stuck. Tried to buy a BMW, but I just bought a random truck. She keep calling my phone, I'm like, damn, girl, what the fuck? Stop going to Taco Bell, why the fuck they had my stomach hurting? This girl asked for her number, I bought her a Birkin. My mama mad because she had home, her pockets hurting. If you don't give up on rapping, I swear one day it's gonna work, man.
Your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Les hommes étaient revenus de guerre depuis bientôt 15 ans. Ils en parlaient encore entre eux, certains soirs au café. Certains évoquaient leur jeunesse, les copains, le bon temps. D'autres avaient des blessures qui ne se refermeraient jamais. Les femmes travaillaient pour la plupart aux filatures. Et il leur manquait bien souvent des petits bouts de doigts. Phalanges oubliaient que le fil de soie leur volait au passage et qu'elle ramassait dans la sciure. Et moi, j'étais un gamin dans le Nord. Moi, j'étais alors gamin dans le Nord. En sortant des fonderies, les hommes s'arrêtaient boire un jus. Et le café était l'endroit où tout se discutait. Les vieux roulaient leur gris.
Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, un cœur rouge, les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le temps, cela peut arriver au prophète, monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête.
La rage,
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve.
La rage.
C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve.
La rage.
Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez. moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car celui qui m'a jugé déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse l'Élysée si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me piquer futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer à sa tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM, en région parisienne, et sur le net pour le reste du monde. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Bonjour Benoît Muraquiol.
Bonjour.
Alors aujourd'hui nous allons parler de transfert d'armes dans plusieurs théâtres de conflit. Mais avant cela, Benoît, j'aimerais que tu présentes l'AZER, ton association.
Alors, AZER, Action Sécurité Éthique Républicaine, ça fait très, très sérieux et pro-Trump peut-être.
Non.
Mais c'est une ONG qui a été créée par des anciens d'Amnesty International, dont je fais partie, et des anciens officiers de police pour l'application des droits de l'homme. Alors, quand je dis droits de l'homme, c'est avec un H majuscule, hein, femme et homme, masculin. Et dans l'exercice du maintien de l'ordre, et également de la force publique, pour être plus large que le maintien de l'ordre, et également le respect des droits de l'homme dans les transferts d'armes. Ce qui est déjà aussi quelque chose d'un peu curieux de vouloir tout d'un coup penser que les droits de l'homme peuvent être respectés dans les transferts d'armes. Mais c'est à cela qu'on s'attache et depuis, on a créé ça en 2010-2011 et on a, alors pour ma part, j'ai participé aux discussions et aux négociations sur le traité pour le commerce des armes à New York depuis 2001. Et d'abord, je l'ai fait en tant que responsable Amnesty International France. Et après, je l'ai fait au nom d'AZER. Et depuis 2018, c'est nous qui avons fait, avec l'aide de notre avocat Matteo Bonali, on reviendra dessus, qui est un avocat extraordinaire, nous avons fait notre première saisie d'un tribunal administratif en France pour demander la suspension de tous les transferts d'armes en direction de la coalition qui intervenait dans la guerre au Yémen et qui était menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc voilà, ça c'est le travail que l'on fait sur la question des transferts d'armes en disant aujourd'hui il y a un droit international qui encadre les transferts d'armes, c'est le traité sur le commerce des armes donc qui est entré en vigueur en 2014 et les États qui l'ont ratifié comme la France sont obligés de le respecter, et notamment par deux articles, les articles 6 et les articles 7, on reviendra là-dessus, mais qui sont très très importants et qui posent bien sûr la responsabilité des gouvernements qui donnent les autorisations de transfert d'armes auprès des entreprises qui, après, envoient leurs armes un peu partout dans le monde.
Sur plusieurs théâtres de conflit. Alors, on t'avait reçu, Benoît, pour les actions que tu avais menées dans le cadre du Yémen. Est-ce que tu peux rappeler très vite vos succès?
Alors, sur le Yémen, nous avons été donc les premiers à saisir un tribunal administratif et l'argumentaire que nous avions développé, et bien sûr avec l'aide de la grande aide de Matteo Bonalia, avait convaincu les juges de faire sauter l'acte de gouvernement. Hein, l'acte de gouvernement, c'est un argument qu'avancent tous les gouvernements pour dire ôtez vos matelas, ça ne vous regarde pas, cette question concerne les relations internationales, etc. Donc le droit n'intervient pas. Droit d'ailleurs qu'il revendique de respecter scrupuleusement bien sûr à chaque fois. Et donc il y a eu une première reconnaissance de la part du tribunal administratif de dire ça n'est pas un acte de gouvernement, donc nous pouvons juger de cette question. Par contre, ils ont refusé de reconnaître l'application directe du traité sur le commerce des armes que le Parlement français avait pourtant ratifié en droit direct. Ça veut dire que pour les juges, il n'était pas possible de prendre le texte du traité et de l'appliquer directement. Or, la Constitution française dit dans son article 64, mais j'ai peut-être un doute, mais enfin, dans la Constitution, il est écrit que le droit des traités sont supérieurs aux droits nationaux. Donc, il y a là, encore une fois, une contradiction que, je dirais, le lien entre la justice administrative et le gouvernement empêche de faire fonctionner, je dirais, de façon cohérente. Mais ce qui est intéressant, c'est que en amenant cette question-là devant les tribunaux, on fait avancer les choses parce que les gens s'interrogent. Les juges qui n'avaient jamais été saisis de ces questions-là s'en sont saisis et ont commencé à se poser des questions sur justement la justesse de cet argument de la part des gouvernements. En 2019, nous avions fait, toujours avec Matteo Bonalia, un référé pour de l'armement qui était embarqué à Cherbourg en direction de l'Arabie Saoudite. Et la juge des référés, et là c'est très très important, a dit que dans son texte, donc qui est envoyé au ministère et bien sûr normalement aux personnes en charge du contrôle des exportations d'armes, eh bien la juge a repris l'article 1 du traité sur le commerce des armes qui dit qu'il y avait bien un lien entre la souffrance du peuple yéménite et les transferts d'armes français. On a été débouté parce qu'elle ne voyait pas l'urgence de la question, mais on sent qu'il y a une prise de conscience de la part de cette juridiction de l'importance qu'ont ces transferts, bien sûr, parce que, là encore, nous sommes les premiers dans le monde, j'irais, à avoir fait un rapport démontrant qu'il y avait des crimes contre l'humanité au Yémen. Jusqu'à maintenant, les experts des Nations Unies parlaient de possibles crimes de guerre, etc. La qualification de crime contre l'humanité a été reprise plus tard par un groupe d'avocats à Londres, Guernica 36, qui, elle, a utilisé cet argument pour saisir sur le plan pénal, donc la Cour pénale internationale, à propos d'individus émiratis et saoudiens.
Voilà. Ben écoute, on peut dire que le travail avance et on verra plus tard dans un autre dossier que votre plaidoyer est repris par Emmanuel Macron.
Ouais.
Voilà. Bien. Alors, on a décidé de parler de plusieurs théâtres de conflit et je souhaiterais qu'on parle des théâtres de conflit en Afrique.
Oui, alors ça c'est vraiment...
subsaharienne et l'Est, ouais. Donc la République démocratique du Congo et le Soudan. Qu'est-ce que tu peux en dire sur ces deux théâtres de conflit?
Alors, d'une part, c'est extrêmement important de parler du continent africain, parce que le continent africain fabrique très peu d'armes. Bon, alors le Soudan, tu as nommé le Soudan. Le Soudan, à une époque, alors aujourd'hui, dans le conflit qu'il y a, je ne pense pas qu'elle fonctionne, mais en tout cas, à une époque, avait fabriqué des munitions sous licence. Mais la majorité des armes vient bien entendu de l'extérieur. Moi, j'avais fait deux missions en République démocratique du Congo et on avait repéré des armes qui venaient de Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie, de l'Ukraine, de la Russie, de Chine. Il y avait des munitions et des kalachnikovs fabriqués sous licence en Chine, des italiennes, des françaises, des armes belges, hein, à Kisangani, il y a ce qu'on a appelé à Kisangani en 2000, la guerre des six jours, qui était terrible, qui était un affrontement entre l'armée ougandaise et l'armée de Kagame, qui continue d'ailleurs de sévir, les deux armées continuent de sévir dans l'est de la République démocratique du Congo, encore aujourd'hui, hein, presque toute impunité. Et on avait trouvé un obus de 75 mm qui avait été fabriqué en 1975 par les poudreries royales belges. Ça veut dire que quand on dit oui, de toute façon, tout ça ne fonctionne, ne reste pas longtemps, etc. En fait, si, les armes, les munitions font partie des armes, elles peuvent être utilisées. Alors, elles peuvent parfois perdre de leur efficacité, bien sûr, ou de leur. Mais. Elles continuent d'être utilisées et elles continuent d'être utilisées contre les civils. Et bien sûr, moins elles ont de précision, plus l'impact est grand en direction des civils. Donc ça, c'est le théâtre de la République démocratique du Congo. Vous voyez, on avait vu à l'époque Brian Wood et Sergio Finardi et Peter Dansert. Bon, Sergio Finardi est décédé aujourd'hui, mais c'était un très très grand chercheur, notamment sur la question des transferts. Des transports d'armes, aériens, bateaux, etc. Et ils avaient montré dans des rapports, notamment Blood at the Crossroad, comment ces armes arrivaient par le Rwanda, donc le gouvernement de Kagame, déjà à l'époque, pour être disséminées sur toute la partie est de la République démocratique du Congo.
Là où se trouvent les minerais les plus importants.
Et bien sûr. Parce que la question des minerais qui continue de se poser d'ailleurs aujourd'hui, avec le coltan, avec l'or, à Mongoualou, il y avait un chef de guerre qui faisait extraire à peu près 30 000 dollars d'or par mois. Voilà. Parce que bien sûr, les gens sont esclavagisés, enfin bon, les creuseurs ne sont pas payés. Donc il y a le bois, ce qu'on pensez moins sur Kisangani. Il semblait que c'était une société française qui profitait de cette exploitation du bois, les diamants également. Donc c'est un des pays les plus riches.
C'est un scandale géologique.
Oui.
Le Congo, RDC.
Et la question de parfois, les gens disent oui, il y a un camp contre l'autre, on est pour un camp contre l'autre. Là, on n'est pas pour un camp contre l'autre. Le gouvernement congolais, que ce soit celui de Kabila ou celui de Tshisekedi aujourd'hui, de la même manière, est impliqué dans ces trafics et est engagé également sur ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité envers le peuple congolais. Et alors, bon, donc, il y a la République démocratique du Congo, cette guerre, mais quand la guerre a commencé. On parle de 96 et puis après 98. Entre 98 et aujourd'hui, certains disent qu'il y a plus de 6 millions de morts directes,
oui,
et indirectes.
Tout à fait.
Dans ce conflit, alors c'est très difficile parce que ce sont des estimations, etc. Mais 80% de civils. Si on prend une comparaison, l'Ukraine, la Russie, c'est l'inverse, c'est sans doute l'inverse, c'est-à-dire que c'est sans doute 20% de civils et 80% de militaires. Pour vous donner un peu une idée de la discrimination dans les attaques, etc. Mais à un moment donné, il y a eu plus de 11 pays qui étaient engagés dans le conflit, en plus du Rwanda et de l'Ouganda, il y a eu le Tchad, il y a eu le Zimbabwe, et il y a eu l'Angola. Voilà. Donc ça c'est malheureusement c'est assez symbolique de ce qui se passe en Afrique sur le Soudan. Sur le Soudan, on retrouve, alors il y a d'abord la création du Soudan du Sud, hein, qui était vraiment une position de la part des États-Unis qui voulait peut-être à la fois diminuer ce grand pays, ce qui était le plus grand pays d'Afrique, et puis servir ses propres intérêts. Moi, je me souviens en 2005, nous étions avec Brian Wood, nous étions à Nairobi quand John Garang, à l'époque, et puis les représentants de Béchir se sont rencontrés pour trouver une résolution.
Un terrain d'entente, oui.
Et puis, peu après, John Garang est mort dans un accident d'hélicoptère dont on n'a jamais vraiment su
si c'était
accidentel ou pas. Mais que ce soit le camp de Garang ou celui du gouvernement saoudien, là encore, il n'y avait pas vraiment un point de vue, une volonté de respect du droit international, du respect des droits de l'homme et de la population soudanaise. On avait toujours avec Brian Wood et Sergio Finardi et Peter Dansert, ils avaient réussi à trouver que le Kenya avait fait des faux certificats d'utilisation finale pour des tanks, que le Soudan du Sud n'existait pas encore, afin qu'ils soient livrés à la rébellion du Soudan du Sud. Donc on voyait bien que déjà les deux camps étaient sur des affrontements aux dépens des populations civiles. Aujourd'hui, la situation du Soudan du Sud continue d'être encore dans cette logique d'affrontement entre deux groupes politiques. Et puis sur le Soudan, le Darfour continue, hein, oui. Les Janjaweed continuent de faire, et puis les deux protagonistes, là, dont l'un est soutenu par les Émiratis, qui sont soi-disant des alliés du gouvernement français, mais qui font partie d'une alliance stratégique du gouvernement français, continuent là aussi d'envoyer des armes. Et je crois que le représentant des Nations Unies au Soudan disait que c'était une des pires crises humanitaires que l'on a vécues. Et ça s'accumule, c'est-à-dire qu'on l'a dit pour le Yémen, à peine le Yémen, la situation n'est toujours pas, la paix n'est toujours pas retrouvée. La population civile est toujours dans une situation de sous-nutrition, d'absence de soins, d'absence d'eau, d'accès à l'eau. La question des maisons, le fait de la reconstruction, quoi. Eh bien, c'est le Soudan, le Sahel. On sait aussi que le Sahel, qui est directement lié, hein. Même Alio-Marie a reconnu que les armes qui avaient été utilisées par les groupes armés pour attaquer le Mali par le nord étaient armées avec les armes qu'avaient transférées les Français pour les groupes armés anti-Kadhafi en 2011, quand il y a eu le soulèvement. Donc on se rend compte qu'à chaque fois, pour faire la guerre, il faut des armes. Et quand les armes ne sont pas fabriquées, ben ça veut dire que c'est les pays occidentaux. Les armes qui ont été livrées au groupe anti-Kadhafi n'étaient pas des armes françaises, mais ce sont les Français qui sont
qui ont arrangé
les livraisons en achetant les. Alors je ne sais plus si on nécessitait des armes russes à l'époque, etc. Mais voilà, ça c'est le principe, et c'est pour ça que avec quelques-uns, quelques centaines de milliers de personnes, et on a même réussi à faire une pétition, une photo-pétition avec 1 million de personnes qu'on avait remise à Kofi Annan en 2006. Nous demandions ce traité sur le commerce des armes.
Alors, pour tout ce qui est le Sahel, il y a un excellent ouvrage qui est sorti de l'association Survie, avec comme auteur Raphaël Granvaux, qui s'appelle De l'huile sur le feu, et qui explique le rôle pendant 10 ans de la France au Sahel et les conséquences jusqu'à ce jour. Donc Raphaël Granvaux va être notre invité prochainement, et on reviendra largement pour expliquer les enjeux. Parce que au-delà de ce que tu viens d'expliquer pour les transferts d'armes via les groupes kadhafistes, il y a maintenant un enjeu par rapport à la guerre ukrainienne. L'Ukraine est investie dans le conflit au Sahel. Et là, parce que justement, beaucoup de juntes, celles du Burkina, celles du Mali, se sont rapprochées de la Russie. Donc l'Ukraine s'est rapprochée des rebelles. Donc ça devient une mondialisation des conflits dans cette zone du Sahel. On va expliquer tout ceci avec Raphaël Granvaux. Donc le livre est aux éditions Luxe. Voilà. Donc nous allons faire une pause, peut-être si Ken, notre technicien. Voilà. C'est bon, nous allons faire une pause. Nous allons revenir en deuxième partie.
City's ablaze, arms on fire, a woman's flame to be.
Chers auditeurs de Pas-de-Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Benoît Muracciol. Benoît, on va laisser Patrick poser une question à propos de l'armée régulière. Patrick ?
Oui, ma question c'était s'il y a des différences de... Alors, je ne sais pas, de transparence sur les flux d'armes aux armées régulières. Et puis, dans la première partie, tu expliquais bien que les, armes, enfin, les groupes armés, ils sont souvent armés par des armées régulières du pays voisin ou de, des pays qui ont des intérêts stratégiques, enfin, qui considèrent les intérêts stratégiques dans le pays. Donc, c'est la question, la différence de ouais, transparence des flux aux armées régulières et aux groupes armés, aux armées irrégulières.
Alors, c'est difficile de savoir exactement. Là, un des exemples les plus frappants, c'était l'Iron Gate, où Reagan essaye d'avoir l'autorisation par le Congrès à l'époque d'armer les contras en Amérique centrale. Et il y a un refus de la part du Congrès, donc il organise avec les cartels colombiens l'arrivée de la drogue en Californie, et avec cette drogue là il va vendre, il va pouvoir armer les contras. En République démocratique du Congo, il se trouve que on a rencontré le responsable de la sécurité à l'époque de l'ONU de Bounia, qui est cette ville qui est au nord-est de la République démocratique, presque aux confins entre le Soudan, l'Ouganda et la Centrafrique. Et il expliquait que lui était à ce moment-là attaché militaire à l'ambassade de France en Colombie, et qu'il avait vu les avions arriver plein d'angles, chargés dans les avions militaires états-uniens. Et donc envoyé. Donc ça, c'est un des. Voilà. Ça, c'est, avec ça, on a su que il n'y avait pas de limite. Hein. Mmh. D'ailleurs, il y a eu une étude du Congrès qui était dirigée par Kerry, John Kerry à l'époque. Mmh. Je pense qu'ils n'ont pas dit tout ce qu'ils avaient à dire, mais en tout cas, on voit bien que ce système-là fonctionne. Toujours en RDC, on a eu des témoignages où les Interahamwe qui représentaient les ex-Interahamwe. Donc, qui avait fui après le Rwanda, et se trouvait donc dans l'est de la République démocratique du Congo, et qui était opposé aux Maïmaï, qui étaient des groupes armés nationalistes. Eh bien, comme ils ne savaient pas se nourrir, quelquefois ils échangeaient les armes qu'ils recevaient contre de la nourriture de la part des Maïmaï. Mmh. Ils ne se rencontraient pas, ils avaient des moments d'échange comme ça. Normalement, dans le traité sur le commerce des armes, il est marqué que on ne doit pas livrer des armes, il est interdit de livrer des armes aux groupes non autorisés. C'est pas direct parce que il y a toujours cette vision romantique de la part du gouvernement des États-Unis qui dit qu'il faut garder la possibilité de d'armer les Freedom Fighters, donc
les combattants de la liberté.
Ce qui est une drôle de façon de nommer, par exemple, les contras. Donc, il a fallu lever cet écueil-là. Mais on se rend bien compte que, de toute façon, les armes, elles sont produites, dans 99% des cas, elles sont produites de façon légale. Et parce que elles sont sous la responsabilité d'un gouvernement. En Chine, qui est un gros producteur d'armes légères et de petit calibre, qui était un gros producteur d'armes légères et de petit calibre, il n'y a pas une arme qui sort sans autorisation. Au Pakistan aussi, moi j'avais beaucoup parlé avec le représentant pakistanais, il dit il n'y a pas un souffle qui sort. Il arrive toujours. C'est surtout ce qui se passe, surtout, et on s'en rend compte quand on parlait du Sahel, c'est-à-dire qu'il y a un conflit qui s'arrête et tout d'un coup il y a une disponibilité énorme d'armes. Et donc à partir de ce moment-là,
il faut les transférer ailleurs.
Mais elles ont été d'abord produites dans un cadre légal. Et après, elles partent dans les.
Alors,
dans un cadre légal. Les transferts d'armes sur le type d'information, c'est effectivement très très compliqué parce que il y avait une arme qui avait été, c'était une mitrailleuse lourde qui avait été envoyée au Katanga d'abord, quand il y a eu les affrontements entre je ne sais plus si c'était l'Angola ou la RD, le Zaïre à l'époque, et qui a été retrouvé dans 7 ou 8 pays. C'était un douanier de Belge qui m'avait donné cet exemple. Donc c'est d'une grande complexité. Quand je parlais tout à l'heure de la livraison des chars au camp de John Garang, il y avait 17 intermédiaires entre l'affréteur, celui à qui appartenait le bateau, entre les intermédiaires au niveau de la logistique, les banques, etc. Donc c'est pour ça que c'est plutôt compliqué à savoir. Ce qu'il y a, et on va en reparler plus tard, parce que ça n'est pas, on est dans le conflit par exemple avec Israël, on n'est pas du tout dans la même configuration que le conflit avec le Yémen. Dans le Yémen, le gouvernement français, puisque la France normalement, elle a les engagements et les gouvernements sont censés respecter les engagements de la France, mais les gouvernements français depuis depuis François Hollande a considérablement augmenté les ventes d'armes et notamment vers l'Arabie Saoudite, eh bien ce sont des sommes très très importantes parce que ça représente des systèmes perfectionnés. Bon, les Rafales bien sûr font tout de suite donnent des hauteurs d'armes. Je sais plus, je pense que c'était on était à peu près pour les Émirats Arabes Unis, peut-être on est arrivé à 2-3 milliards de livraisons d'armes une année. L'Arabie Saoudite, ça a été parfois, je crois que ça a été aussi, ça a été dans ces eaux-là. Peut-être que l'Arabie Saoudite, c'était un peu plus régulier, sauf que ils avaient des problèmes pour régler les armes. Par contre, sur Israël, on est entre 15 et 30 millions d'euros. Là aussi, pour la dernière année, le rapport sur les exportations d'armes au Parlement français, qui est sorti en 2023, vous voyez déjà le retard. Et parlant de 2022, peut-être qu'on est à 30 millions. Ce qui est pas, on peut se dire, 30 millions, c'est pas une grande somme. Sauf que on se rend compte que avec très peu d'argent, on peut acheter des composants, par exemple, des pièces détachées qui vont participer à un système qui, ce système de missiles ou de drones, va avoir un impact terrible parce que il va tirer des missiles et il va toucher des populations. Ou encore plus simple, on parlait de Kalachnikov ou de munitions. Ça vaut pas grand chose. Hein. J'ai un Kalachnikov, quand moi j'y étais, ça pouvait être 10-20 dollars, hein, une Kalachnikov. Et puis, y a un groupe armé qui arrive dans un village et puis il tire sur tout ce qui bouge. Et voilà. Donc, c'est cette situation-là. Et c'est cette situation-là que le traité sur le commerce des armes veut encadrer en disant. Il faut absolument prévenir ces graves violations, donc arrêter les transferts d'armes quand elles pourraient être utilisées à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou un génocide, ou elles risquent d'être utilisées. Hein, il y a deux possibilités.
Alors prenons le cas du Yémen, justement. Nous continuons à armer la coalition qui bombarde le Yémen.
Alors, le gouvernement français, moi, voilà, je ne me sens, oui, pas.
Pas,
me sens
pas. Pas nous, qui sommes dans le studio. Oui. Enfin, le gouvernement français.
Alors, il n'y a pas eu de suspension hein, des armes en direction des pays de la coalition, hein, puisqu'il n'y a pas que. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite
et les
Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite qui s'affrontent aussi au Yémen. Parce que les Émiratis soutiennent un groupe qui est du Yémen du Sud, qui réclame. Une autonomie par rapport au gouvernement du Nord. De ce point de vue-là, la France continue de violer allègrement le traité sur le commerce des armes parce que, malgré ce qu'avait dit et d'ailleurs Florence Parly, où elle pensait que les armes n'étaient pas utilisées, elle était sûre d'ailleurs que les armes n'étaient pas utilisées en direction des populations civiles, disclose et une fuite de quelqu'un de la Direction générale du renseignement militaire avait montré que
c'était pas le cas.
Notamment les canons César avaient la potentialité de tirer sur les villages civils. Donc on est dans cette situation, dans ce que McNamara appelait the fog of war, le brouillard de la guerre, où pendant qu'il y a ce brouillard, on profite de tout et on vend tout ce qu'on peut et on espère de ne pas se faire prendre. Ce qui est terrifiant et ce qui apparaît pour Azer, moi je continue de suivre chaque année les conférences des États du traité sur le commerce des armes. Hein, il y a au mois d'août, en général, les États se réunissent pour faire un point de ce qui s'est passé dans l'année, etc. etc. Et les ONG, bien sûr, qui sont parties, qui sont même citées dans le préambule du traité, peuvent participer et également parler en assemblée générale. Enfin, quand nous sommes tous réunis en assemblée générale, je dirais. Eh bien, la question du Yémen, elle a disparu, la question du Yémen.
À partir du moment où les Houthis se sont mis à mitrailler, enfin à envoyer des missiles sur les bateaux, ils sont devenus des méchants. Alors, c'est fini.
Mais ils étaient déjà des méchants pour le gouvernement français, mais parce que ils étaient des méchants parce que c'était sûr qu'ils étaient des proxys de l'Iran.
Voilà.
Il est certain que l'Iran a en partie transférer des armes en direction des Houthis. On n'a pas énormément d'informations là-dessus, mais sans doute, les Houthis ont surtout récupéré les énormes stocks d'armes qui avaient été livrés au gouvernement yéménite d'avant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il y a la guerre en Ukraine, tout disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui disparaît. Et,
qui apparaît.
Et quand on regarde, il y a une violation du droit international, hein, le fait que Poutine intervienne dans le territoire ukrainien, c'est bien sûr une violation du droit international. Mais comme disait un de mes amis, Patrice Sartre, la guerre en Ukraine-Russie, c'est Materazzi-Zidane en finale de la Coupe du Monde. C'est Materazzi qui insulte Zidane pendant tout le match. Et à la fin, Zidane lui met un coup de boule. Et Materazzi n'a pas fait ce qu'il a à faire. Zidane n'a pas fait ce qu'il a à faire. On comprend un peu pourquoi Zidane le fait, mais même s'il a tort, mais on comprend un petit peu. Et je trouve une image absolument extraordinaire de ce qui s'est passé en Ukraine pendant plus d'une décennie. D'ailleurs, avant le coup d'État 2014 en Ukraine, il y a une tension qui est organisée notamment par les États-Unis. Et au bout d'un moment, Poutine
se sent obligé de réagir.
Voilà. Et là, tout d'un coup, c'est une façon pour les pays du Sud, l'immense majorité des pays dans le monde, hein, parce que les pays occidentaux représentent vraiment une minorité, très grande minorité, je ne sais pas si on représente 10% de la population mondiale, eh bien, on voit bien, c'est apparu le deux poids deux mesures.
Oui.
Hein, et là, c'est quand même très très important, parce que pour avoir suivi les discussions et négociations du traité aux Nations Unies, c'est la première fois que je vois un tel revirement, enfin, une telle évidence pour les pays du Sud de ce deux poids, deux mesures. Certains disent que c'est une perte d'influence de l'Occident, c'est une perte d'influence de la France, c'est une perte d'influence des États-Unis, etc. C'est à la fois, oui, c'est vrai que c'est mais c'est surtout une montée des pays du Sud qui, maintenant, prennent conscience de leur force et de leur importance, etc. Ça ne veut pas dire que les gouvernements des pays du Sud sont forcément meilleurs, hein, mais en tout cas, il y a cette nouvelle, ce nouveau rapport de pouvoir qui se constitue et qui pourrait aider les populations civiles à eux-mêmes mettre pression sur leur propre gouvernement pour que ce ne soit plus possible. Un exemple très simple, le Canada, l'Espagne, l'Irlande, je crois aussi, ont suspendu les transferts d'armes en direction d'Israël.
Exact.
Qui font partie vraiment du bloc occidental, des pays occidentaux. et le Canada avec les États-Unis, le grand frère un peu écrasant des États-Unis à côté. Donc ça veut dire que il y a quelque chose qui se passe dans le temps. On voit maintenant que les États-Unis n'ont absolument aucun levier sur le gouvernement Netanyahou.
Non. Hein?
Donc là aussi, c'est quand même Israël, c'est quoi, 7 millions, 8 millions de personnes, et les États-Unis, c'est plus de 300 millions de personnes. Donc, bon, voilà, ça, c'est quelque chose qui se passe. Si le gouvernement Poutine avait fait le quart de ce qu'avait fait, de ce que fait actuellement le gouvernement Netanyahou à Gaza, mais aussi sur les territoires de Cisjordanie et Jérusalem-Est, au Liban, etc., on aurait tous Macron, le Premier ministre britannique, Biden, enfin tous ces gens-là qui seraient hurlés en disant il faut s'armer et il faut écraser la Russie, etc. Ils sont pas très loin de le dire parfois, mais en tout cas voilà. Et ça c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est il y a quelque chose qui bouge et qui me semble qui est irréversible. C'est-à-dire que c'est un processus qui a démarré et qu'on ne peut plus arrêter.
Alors, pour le Yémen, revenons au Yémen, avant de passer à Israël et à ce qui se passe en Palestine et au Liban. Le Yémen, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur le transfert d'armes? On continue, nous, la pression, nous, les ONG, la société civile, pour que la France arrête d'armer la coalition?
Oui, mais la pression est bien moindre. C'est-à-dire que et la transition est assez juste quand on voit la formidable mobilisation qu'il y a pour ce qui se passe à Gaza. Hein, quand même, il y a la représentante spéciale des Nations Unies qui dit que le seuil selon lequel on peut qualifier l'action de l'armée israélienne à Gaza de génocide, ce seuil-là a été franchi. La Cour internationale de la justice a dit qu'il y avait un risque plausible de génocide. Il y a des éléments, et ce n'est pas quelque chose qui est lointain. On est à 3 heures de Paris en avion. C'est quelque chose qui est, malgré tous les efforts du gouvernement israélien d'empêcher les images, on arrive quand même à avoir des informations grâce à journalistes qui ont un courage extraordinaire.
Quand ils sont encore vivants.
Oui, quand ils sont encore vivants, bien sûr.
Parce qu'ils sont quand même des cibles.
Donc, je dirais que la crise actuelle de Gaza permet à beaucoup de gens de réaliser ce que c'est que la question de la responsabilité et même la question de la complicité dans des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et implausible génocide.
Donc, on peut réexaminer ce qu'on a fait au Yémen,
oui,
à l'aune de ce qui se passe actuellement à Gaza.
Oui,
donc, on va arriver naturellement, puisque la transition est faite, à ce qui se passe à Gaza et ensuite au Liban.
Non, les informations que l'on a, parce qu'il y a quand même des journalistes israéliens, hein, le journal Haaretz arrive à donner quand même des informations. Par exemple, là, il vient de sortir, comme quoi il avait la preuve que les soldats israéliens se servaient des civils palestiniens comme boucliers humains, ce qui est un crime de guerre, ce qui est complètement interdit par la Convention de Genève. Ils les font même aller dans des zones pour servir de cobaye pour si jamais il y a des systèmes des explosifs ou des explosifs qui n'ont pas
explosé
ou alors des explosifs qui ont été mis en place par le Hamas ou quoi que ce soit. Donc et que ce soit bien clair, nous Azer, pour nous le 7 octobre n'est pas le départ du conflit. Hein, le départ, si on s'attache à un temps qui est le nôtre, hein, de notre engagement sur cette question des droits de l'homme et des transferts d'armes, on regarde 2008-2009, l'opération Plan Durci, rapport des Nations Unies, crime de guerre, crime contre l'humanité. 2014, crime de guerre, crime contre l'humanité. 2018, il y a un automatisme dans l'intervention militaire, ne serait-ce qu'en prenant, en démarrant en 2008. Hein, il y a dans une culture de crimes de guerre et crimes contre l'humanité de la part des gouvernements israéliens qui est réelle. Hein, on a des rapports des Nations Unies, des experts des Nations Unies qui dénoncent ce genre de choses. En 2008-2009, Goldstone, après, est revenu, qui présidait ce groupe d'experts, puisqu'il a subi d'énormes pressions, mais oui. Les experts qui ont travaillé avec lui ont dit que pour eux, il s'agissait bien de crimes contre l'humanité.
Tout à 2008. Fait.
Donc, les États savaient. Ce qui est très, très important, c'est qu'avant, quand on rencontrait les représentants du gouvernement, etc., ils disaient, on ne savait pas. Alors, ce qui permet de dire, si vous ne saviez pas, c'est difficile d'engager votre responsabilité. Mais maintenant, les États savent, ils ont les informations. Ils ont à la fois leur service de renseignement, hein, on s'en est aperçu pour le Yémen.
Oui.
C'est bien, il y avait bien la direction générale, la direction du renseignement militaire qui avait ces informations-là. Mm-hmm. Et puis, ils ont, comme nous tous ici, nous avons les sources ouvertes. Et on peut voir que pour Gaza, par exemple, c'est plus de 42 000 morts, mais 42 000 morts qui sont répertoriés. C'est-à-dire que le service du Hamas a les noms des personnes. Et on pense, les gens qui sont sur place, les humanitaires qui sont sur place, pensent que c'est bien plus de personnes que ça, puisque c'est entre les personnes qui ont disparu, les personnes qui ont disparu sous les décombres
qu'on n'a pas récupérées.
Je crois que c'est quelqu'un d'UNICEF qui revenait de Gaza, qui disait pendant 11 minutes, il a filmé pendant 11 minutes le temps du transport, etc. Il n'y avait pas une seule maison, il a fallu attendre 11 minutes pour voir une maison ou un bâtiment qui était debout. Donc voilà, ça, maintenant les États savent. Et ils ne peuvent plus dire qu'ils ne savaient pas. C'est une chose qui est abordée dans l'article 6 du traité sur le commerce des armes, c'est que il est dit que les États doivent suspendre tous les transferts d'armes qui pourraient être utilisées à des crimes de guerre. Et au moment où ils donnent cette autorisation, s'ils ont la connaissance que ces armes pourraient être utilisées à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des attaques directes contre les civils. On est, le génocide, on est en plein dans ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, hein, sur la question des crimes contre l'humanité. Il y a également toujours des journalistes et des ONG nationales qui ont dénoncé la question de la torture systématique.
Des prisonniers.
Hein, des prisonniers. Alors, le crime contre l'humanité de Hamas le 7 octobre, il n'est pas du tout excusable ou pas du tout, pour nous, il n'est pas question de justifier quoi que ce soit. Hein.
Non.
Pour nous, c'est un crime contre l'humanité. Et si on regarde la douleur, elle est universelle. La douleur des familles de gens qui sont tués aux prisons d'otages israéliennes, qu'est-ce qu'elle change de la douleur des jeunes qui sont pris, qui sont attrapés par l'armée israélienne, mis en prison et torturés, etc. Quelle différence il y a tous là-dedans. Donc nous, on s'attache vraiment à la nature des actes. Il y a une polémique sur il faut dire que ce sont des terroristes, etc. Nous, on ne rentre pas là-dedans. On dit c'est un acte de terrorisme. Il y a bien un accord au niveau international pour dire ce que c'est qu'un acte de terrorisme. Il n'y a pas d'accord international pour dire que c'est tel groupe ou tel groupe ou tel autre groupe est un terroriste. On peut dire, oui, que ce que l'armée israélienne fait à Gaza, c'est un acte de terrorisme. Il n'y a plus aucun discernement. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a même de l'intention derrière, même si l'intention est effectivement difficile
à prouver. Elle reste à prouver pour l'instant. Mmh. Voilà. Nous allons faire une pause. Benoît, Patrick, si Ken, c'est possible, oui. Et nous allons revenir en troisième partie.
On voyait les chevaux de la mer qui fonçaient la tête la première et qui fracassaient leurs crinières devant le casino désert. La barmette avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps de ses yeux taillés en amont. C'est utile, et puis surtout, si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre, ça arrive. Je suis parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attire dans un estaminet. Là, il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière, on vous la servait, bien avant qu'on en redemande. Oui, ça pleuvait, oui, ça pleuvait, comme au stand et comme partout. Sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. On est parti bras dessous dans le quartier où il y a des vitrines rempli de présence féminine qu'on veut se payer quand on est sous. Mais voilà, tout au bout de la rue est arrivé un limonaire avec un vieil air du tonnerre à vous faire chialer dans tes plus. Si bien que tous les gars de la bande se sont partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie de notre émission avec Benoît Muracle. Benoît, alors, après nous avoir décrit tous ces théâtres de conflits, tous ces transferts d'armes, on va peut-être essayer de voir les choses les plus positives qu'on puisse retirer du combat contre les transferts d'armes. Eurosatory, par exemple.
Alors oui, Eurosatory, c'est un exemple extraordinaire de la de ce que peut donner une mobilisation de la population civile, il y a déjà un mouvement qui s'est créé de façon presque spontanée, oui. Qui s'appelle Stop Arming Israel. Ça s'est créé dans tous les pays, donc ça s'est créé aussi en France, et qui a fait un travail formidable de mobilisation, de distribution de tracts, etc. Donc ça, c'était une première chose. Et je dis, mais si on avait eu ça sur le Yémen, on peut imaginer que ça aurait été autre chose. Mais ça se fait aujourd'hui, ça s'est fait aujourd'hui, et ça s'est fait. Et il y a ce début de questionnement, de mobilisation sur la question de la venue des entreprises israéliennes, d'armement israélienne à Aerosatory, qui est cette foire qui se passe tous les deux ans en France, qui est la plus grande foire du monde et qui réunit tous les vendeurs d'armes importants de la planète. Et nous étions à ce moment-là, nous AZER, avec l'ACAT et Stop Fueling War, nous étions à ce moment-là sur notre démarche de demande de suspension d'une licence d'armes en direction d'Israël. C'est une licence ML3. ML3, c'est une nomenclature un peu compliquée, mais disons que c'est ML3, ça concerne les munitions par pièces détachées et composants. Et notamment on avait déjà démarré cette action depuis le début de l'année 2024.
On t'avait reçu dans notre émission.
Oui, c'est ça. Et tout d'un coup, on apprend grâce à Disclose que cette licence n'est pas livrée, complètement livrée auprès
d'Israël.
D'Israël. Donc, notre action, on écrit au Premier ministre qui ne nous répond pas, donc qui refuse notre demande de suspension. Et on va devant le tribunal administratif. On se fait balancé malproprement, toujours sur les conseils de Matteo Bonaglia, on propose un référé et on se refait balancer, même pas une audience. Alors, à ce moment-là, il y a d'autres ONG qui s'y mettent, et ce qui est un peu dommage, c'est que c'est ce manque de coordination qu'il y a eu, puisque ce que nous, avec, je dirais, la connaissance que l'on a de ces processus-là, on a été débouté finalement par le Conseil d'État, parce que le Conseil d'État avait pris comme justificatif de leur refus d'écouter notre plainte le fait qu'on avait fait une demande générale de suspension des transferts. On avait demandé la suspension de tous les transferts, comme c'est écrit dans le traité, en direction de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis. Or, le Conseil d'État dit non, c'est pas possible de faire une demande générale. Donc, il nous restait une toute petite porte ouverte que l'on a, bien sûr, on avait perçue, avec également Paul Matonnet, qui est notre avocat au Conseil d'État, sur le fait que en demandant une licence, la suspension d'une licence, on ne pouvait pas nous en renvoyer le même argumentaire. Et donc, là, fort justement, on devrait quand même avoir une autre réponse de la part du Conseil d'État. Or, les autres ONG ont fait des demandes qui ressemblaient à des demandes générales. Donc, tout ça a été balayé, mais il nous reste encore, en référé, en procédure de référé, mais là, il nous reste encore cette question des munitions que Eurolink a livré et peut-être encore est en train de livrer auprès de l'armée israélienne. Donc, c'est sur cette question-là que notre mobilisation s'est faite. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé avec d'autres ONG. Alors, l'association France-Palestine, Al-Haq, est une ONG palestinienne, avec Droits et Mouvements Sociaux, avec Urgence Palestine, avec toutes ces ONG, et bien sûr Stop Fueling War et Stop Arming Israel, qui ont des points de vue, des regards tout à fait différents, mais qui avaient un objectif commun. Et là, alors là encore, avec une l'aide, mais j'insiste là-dessus, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ça demande du boulot de la part de Matteo Bonaglia et puis Dominique Cochin, qui est aussi une avocate, et qui était, elle, engagée déjà depuis longtemps sur les questions...
Et plutôt côté BDS.
Voilà, c'est ça. Et d'essayer d'arriver à mettre sur... à construire une plainte cohérente au civil, cette fois-ci, mm-hmm. pour empêcher à la fois les entreprises israéliennes d'armement d'exposer à Rossatori, mais en plus d'empêcher la délégation israélienne, les représentants de ces sociétés, de venir et de faire commerce, enfin de commencer à prendre... Voilà.
Business as usual, voilà. Comme on dirait.
Et là encore, c'est un truc exceptionnel, c'est-à-dire que le tribunal de Bobigny dit, vous avez raison, stop. Entre-temps, le gouvernement français, qui sentait venir un petit peu la question, avait dit que... Alors, ce qui est preuve d'un courage extraordinaire, dans une réponse, je crois, à une interview de Reuters, où il dit non, mais ils ne sont pas les bienvenus, ou quelque chose comme ça, voilà, en parlant des industriels. Donc, l'affaire se fait, la décision du tribunal est très favorable, mais bien sûr, en appel, enfin pas bien sûr, mais en tout cas en appel, nous avons perdu sur le fait de la venue des représentants, à la fois du gouvernement ou des entreprises. Mais la décision du tribunal a été tellement forte que il n'y avait plus personne pour venir, de toute façon, oui. De la part des...
Ils ont pris peur.
Voilà. Alors, quand Amnesty International faisait ce travail-là, il y a longtemps, malheureusement, c'est ce qu'on faisait, c'est-à-dire que mobilisation de citoyennes, travail de plaidoyer. Nous on a eu des contacts avec le JICAT, qui est co-organisateur de Rossatori. Le fait des juristes, le travail avec les juristes, de savoir dans quelle faille. Alors, Amnesty, effectivement, n'attaquait pas, ne saisissait pas les tribunaux, mais on est dans une nouvelle ère, donc il faut être créatif, etc. Et donc on a avancé là-dessus, et quand on avance ensemble là-dessus, voilà,
ça marche.
La question des rapports de pouvoir, elle se pose. Hein, ils sont que quelques-uns, et nous sommes des millions. Oui. Donc ça n'est pas simple d'ailleurs, hein, parce que chaque organisation a ses propres. Donc il faut qu'on arrive à trouver le plus grand dénominateur commun.
Mais
fondamentalement, on avance. Alors c'est vrai que je cite souvent Thébonalia, parce que la question de transfert d'armes est une question à la fois très simple, hein, pas d'armes pour des atrocités, c'est très simple, mais d'une complexité, c'est aussi d'une complexité entre les textes de loi, etc., nationaux, internationaux, etc., c'est d'une grande, grande complexité. Donc, sans la vision de Mathéo, on n'aurait jamais pu avancer comme ça. Donc voilà, c'est ces engagements multiples et
variés.
Voilà, on a réussi ça. Et bien sûr vient la déclaration d'Emmanuel Macron. Alors on sait un peu qui est Emmanuel Macron aujourd'hui. En plus dans le domaine de international, il est comme un enfant, il a pas d'histoire, il a pas de connaissances quand je parle de connaissances, c'est le fait d'un vécu, c'est pas le fait de lire et de dire ah bah tiens oui ça c'est le sèche savon, les singes savants qui savent faire ça, ils lisent et puis ils répètent, etc. Non, mais d'un vécu, de la compréhension de la complexité des relations internationales. Mais il dit quelque chose de très intéressant, sans doute que ces éléments de langage ont été donnés par quelqu'un qui connaît un petit peu la question, parce qu'il dit qu'il faut suspendre toutes les armes qui pourraient être utilisées ou qui pourraient servir à Gaza.
Et au Liban.
Au début, c'était à Gaza, et puis après, c'était à Gaza,
voilà,
et au Liban. Donc, c'est exactement l'article 6, paragraphe 3, l'écriture de l'article 6, paragraphe 3 du traité sur le commerce des armes. Ça veut dire que tout ce travail qui se fait dans l'ombre, pendant des années, etc., il y a un moment donné où il y a quelque chose qui émerge. Pas parce qu'on a convaincu, la conviction d'un personnage comme Macron, c'est un mystère, et peu importe d'ailleurs. Mais à un moment donné, ils vont devoir... ils vont devoir en tenir compte. Est-ce que c'est la question du risque pénal, là ?
Je pense que c'est plutôt ça.
Ces gens-là prennent parce que ils ont donné les autorisations.
Alors, oui.
Ça c'est bien. On est bien dans un cadre.
Et je vous renvoie aussi de Disclose, qui a bien montré, qui a fait des articles, Ariane Lavrieux
Absolument.
Qui sont très bien faits.
Non, ouais.
Disclose.org. Mm-hmm.
Et donc on est, voilà, ben exactement, on réunit des gens qui travaillent dans des domaines différents, puis tout d'un coup on arrive à assembler quelque chose, et tout d'un coup il y a quelque chose qui se met en place, et qui n'est plus pour ou contre un camp ou l'autre, mais qui est parce que à un moment donné, il y a un droit international, il y a le droit international des droits de l'homme, c'est quelque chose qui existe même en temps de guerre, c'est pas seulement le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme, il existe tout le temps. Les États ont pris des engagements vis-à-vis de ça, déjà la Charte des Nations Unies, et il s'agit maintenant de les respecter et les faire respecter. Mm-hmm. Hein? Donc ça, c'est ce qu'a apporté Russell Torrey. Alors, qu'est-ce que ça va devenir maintenant? Par exemple, il y a quand même la CGT là, qui a envoyé une lettre à la direction de Thalès pour dire non, les armes, ce ne sont pas n'importe quoi. C'est pas que, eux, la CGT, ne sont pas contre le commerce des armes. Non. Le traité sur le commerce des armes n'est pas contre le commerce des armes. Il dit simplement qu'il faut l'encadrer. Il faut pas vendre à n'importe qui. Et n'importe comment. Et qu'il y a cette responsabilité. Il y a la question de la responsabilité de celui qui dit oui. Mmh. Voilà. Et ça, c'est peut-être aujourd'hui
le tournant.
Quelque chose qui émerge de plus en plus.
Alors, c'est dû à quoi, Benoît, à ton avis?
C'est ces questions-là, c'est toutes ces luttes, toutes ces dont on ne parle pas dans les médias, etc. C'est-à-dire, il y a des gens qui discutent, il y a des gens qui... Alors, avec les Gilets jaunes, on a vu ça, il y a des gens qui se rencontrent, qui discutent. Voilà, à partir du moment où on arrive à se rencontrer, on arrive à discuter, eh bien, il y a des choses qui s'ouvrent. Hein. Quand on a démarré sur la question du Yémen, on était tout seul. Hein. Et puis il y a la CAD qui s'est joint à nous, et puis il y a Stop Fueling War qui s'est joint à nous, et puis puis pour Israël il y a la FIDH qui s'y est mis, il y a même Amnesty International qui s'y est mis, il y a cabinet Vincent Brenna et tout ça qui s'y ont mis, tout ça, et petit à petit
hop. Maître Braham, tu veux dire?
Non, alors oui, mais également avec William Bourdon et... Bon, alors,
c'est Sherpa.
Non, c'était Sherpa. Là, c'était pas Sherpa qui intervenait, en tant que Sherpa qui intervenait. Mais il y a quelque chose qui se met en mouvement. Mm-hmm. Voilà. Et c'est ce mouvement-là. On ne sait pas où ça va pour l'instant, mais... Il continue, j'ai lu là un Stop Arming Israël qui continue de faire des tracts auprès des entreprises de l'armement. Et les gens discutent. On est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe, on discute. Mmh. On apporte.
Moi, j'ai souvenir, dans les années 90, Jet Industries, quand il y avait des restructurations successives et de manifestations organisées où il y avait tous les représentants politiques, donc de la ville, il devait y avoir du département, il devait y avoir la chambre d'industrie qui devait être représentée au plus haut niveau, hein, qui était représentée, les syndicats de salariés, et en fait, il y avait impossibilité, me semble-t-il, d'avoir un discours de dire, attention, on est en train de défendre des emplois, certes, mais l'argument, enfin, il était un peu facile, on défend des arguments, mais de l'autre côté, on fabrique des armes, et posons-nous la question, à quoi elles vont servir. Et en t'entendant, j'ai l'impression que peut-être que c'est des choses qu'on verrait plus difficilement aujourd'hui.
Je pense qu'elles continuent d'exister. Hein. Quand on entend Le Drian qui disait c'est 200 000 personnes, enfin on ne sait pas trop d'ailleurs combien de personnes vivent de l'armement. Peut-être 160 000 avec les sous-traitants, etc. Mais je disais tout à l'heure, la culture, c'est plus d'un million de personnes. Et la culture, quel est le budget de la culture? Donc, voilà, on a plus intérêt à travailler dans ce sens-là. Et c'est ça, c'est ça qui est en train de se faire là. C'est des gens qui tout d'un coup se posaient pas des questions de la même manière. Là, les images sont tellement terribles. Même Zelensky, donc, s'en est aperçu parce qu'il s'est plaint du deux poids deux mesures, alors qu'ils ont touché pour presque 250 milliards d'armement et d'aide
l'Ukraine.
Sans savoir d'ailleurs où ça va. Hein, il n'y a pas de contrôle.
Alors, pour ce qui concerne l'Ukraine, il faut savoir que au départ, Poutine avait un trésor de guerre de 600 milliards. Donc, si on en a gelé la moitié avec les sanctions. Donc, si on le redistribue aux Ukrainiens, ça va.
Oui, si on le distribue aux Ukrainiens, sauf qu'on ne le distribue pas aux Ukrainiens. On le distribue au gouvernement ukrainien, et après, ou par cet argent, des experts de CRS là, qui travaillent au Congrès des États-Unis disent on a un problème d'identifier les flux, de savoir où va l'argent et où vont certaines armes. Donc non, on est dans une situation... c'est la contradiction de notre monde, c'est-à-dire qu'on est capable de développer, de trouver des moyens absolument incroyables pour armer, pour l'affrontement militaire, etc. Le Yémen, on parlait tout à l'heure du Yémen, je crois qu'il cherchait 240 millions pour sauver de la famine ou de la malnutrition les civils au Yémen. Ils ne trouvaient pas le budget. Le Soudan, ils n'arrivent pas à boucler le budget d'aide pour les personnes civiles. République démocratique du Congo, on se retrouve aussi avec les mêmes...
Avec le Mopox.
En plus avec
l'épidémie.
Une épidémie, les épidémies, bien sûr, elles se propagent encore plus facilement quand les gens sont dans une situation de misère.
Et de disette.
Très grande. Donc oui, voilà, toutes ces questions-là se posent. Et peut-être que de plus en plus de gens vont dire, non, ça suffit, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble et qu'on arrête de s'autodétruire comme on le fait aujourd'hui.
Alors, laser, quelles sont les perspectives de lutte qu'on... Alors, je sais que laser est une petite association. Donc, le site internet, c'est azer-asso.org. Et on peut faire un don. Donc, on vous encourage, sachant tout le travail que fait cette association. Donc, quelles sont les perspectives et qu'on vous encourage?
Les perspectives, c'est notre action toujours pour la suspension de la licence de pièces détachées de munitions là dont je parlais tout
M23.
À l'heure. Voilà. Donc on va se retrouver devant la chambre d'appel ou le Conseil d'État avec donc Matteo Bonalia et Paul Matonnet pour faire valoir nos arguments. Donc ça c'est bien sûr extrêmement important parce que la décision qui sera prise va avoir bien entendu un impact sur tout. Les autres transferts du gouvernement français.
Tout à fait.
Il y a le salon Euronaval qui devrait se faire, je crois, au début novembre. Mmh. Et donc la question se pose de savoir, là encore, si les entreprises israéliennes de l'armement sont invitées. Et à ce moment-là, avec les déclarations d'Emmanuel Macron, je dirais qu'il n'y a aucune raison qu'elles soient autorisées de venir. Mais si jamais elles étaient autorisées, la mobilisation sera encore plus grande. Ça, c'est une conviction.
Alors, je renvoie au site donc d'Azer pour faire les dons. Azer, Azer-asso.org. Mais le site de Stop Arming Israël est très bien fait, avec une carte interactive, surtout des lieux où se fabriquent les armes qui vont sur tous les théâtres de conflits dont on a parlé. Et on parle, les médias mainstream évitent de parler des mobilisations pratiques et physiques. Il y a eu des manifestations monstres du côté de Marseille, où il y avait plus de 400 personnes qui se sont mobilisées contre des transferts d'armes. Et ça, on n'en parle pas. Mais par contre, quand on va sur Internet, on a toutes les mobilisations. On sait qu'on fabrique des armes partout en France. Donc, il y a un site de production forcément près de chez vous. Donc, rapprochez-vous de Stop Arming Israël. Rapprochez-vous de laser. Et combattez, si je puis me permettre. J'ai tout faux ?
Non. On est sur les vieilles choses, l'union fait la force et ça marche. Donc réunissons-nous Et c'est la question de la justice, voilà. La question de la justice, elle est à notre niveau, même si c'est un 66 millionième de notre responsabilité dans la violence du gouvernement français. Voilà, ça, on peut ne pas le déléguer. Et tenter de faire valoir ce droit international.
D'accord. Alors, tous les textes, ce qu'il y a de bien sur le site de l'AZER, c'est que tous les textes sont sur le site. Oui. Donc, vous pouvez les regarder, vous pouvez vous en inspirer. Les lois, tout est très bien expliqué. Le site est parfait. Donc, tu as une date à nous...
On va voir. Je crois que c'est 5 et 7. C'est la semaine du 5 novembre, je crois, pour... le Euronaval.
D'accord.
Voilà. Et puis, pour le tribunal, on n'a pas de réponse sur les échéances, etc.
Comme par hasard. Ouais.
Ça avait été assez vite sur l'appel, quand on avait été renvoyé en 2019.
Je me rappelle.
On avait été classé au tri, etc. Peut-être que là, ça va aller assez vite. Non, je peux pas vous en dire plus. Mais en toute façon, on communiquera sur notre site pour...
D'accord. Et nous relayerons l'information auprès des auditeurs pour qu'ils se connectent et qu'ils rejoignent la mobilisation ou qu'ils aillent au tribunal pour assister au débat.
Oui.
Voilà.
Ben, oui, c'est vrai. Si on a l'audience, oui.
Voilà. Donc, Patrick.
Non, conclusion. Pas de questions particulières.
Voilà.
Je suis admiratif du travail qui est fait, bravo, merci.
Merci Patrick. Merci, oui. Non, mais c'est ça aussi qui est bien, c'est des gens qui viennent d'horizons différents, etc., qui, bon, on n'a pas de salariés, hein, vous imaginez, avec un budget comme on a, mais il y a un moment donné, des gens qui ont envie que les choses avancent et que les choses se fassent. Donc c'est ça. Ce qui est toujours difficile, sans doute, c'est de se dire, d'arriver à travailler, j'irai dans l'ombre, cette partie de l'ombre où il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui émerge. Voilà. Mmh. Et puis après, peut-être, ça va être un long tunnel
dans l'ombre,
et ça.
Ouais,
mais,
tout à fait. C'est de temps long.
C'est la question de la justice, voilà. Ouais. C'est ça qui nous tient encore, et il n'y a pas de raison de s'arrêter.
Bien. Merci, Benoît.
Merci, Mariama.
Je rappelle l'adresse du site internet, c'est azer, azer-asso.org. Merci Patrick.
Merci
à Kendong pour la technique. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Donc dans quelques instants, la prochaine émission, c'est le grand soir. Merci.
La rage.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, un cœur rouge, les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous de la preuve.
La rage.
C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura un jacques de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me piquer futur, la gloire pour de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge, tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. Je t'ai blessé, c'est mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer à ça tout, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse ou de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage.
Un jour, de feuillages au fond, un jour, d'épaules nues, où les gens s'aimeront. Un jour, comme un oiseau, sur la plus haute branche. Je désespérais de mes frères sauvages. Je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous, et le feu des soldats porté sur nos rivages. Quoi, toujours ce serait par atroce marché, un partage incessant que se font de la terre entre ces assassins que craignent les panthères et dont tremble un poignard quand leur main l'a touché. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, de feuillages au front, un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront. Un jour.
Tu veux un verre d'eau? Tu veux un verre d'eau? Ouais.
Toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme inutilement né, les blés déchiquetés, toujours des sauterelles. Quoi, les bagues toujours et la chair sous la roue, le massacre toujours justifié d'idoles, au cadavre jeté. Ce manteau de parole, le paillon pour la bouche et pour la main le clou. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front. Un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche.
Radio Libertaire 89.4, le grand soir du mardi, émission proposée par le groupe La Rue de la Fédération anarchiste. Nous accueillons ce soir Simon Cotin-Marx, sociologue et maître de conférences au CNAM, pour parler de son dernier ouvrage co-écrit avec Baptiste Milondeau, qui n'a pas pu être là ce soir. Ce livre s'intitule « Travailler sans patron ». Mettre en pratique l'économie sociale et solidaire. Ce livre pose de nombreuses questions. Peut-on se passer de hiérarchie, de chef et de patron ? Peut-on instaurer une organisation libertaire dans l'univers professionnel ? À travers un important travail de recherche, Simon Cotin-Marx et Baptiste Milondeau brossent un tableau riche et nuancé de formes organisationnelles, associations, coopératives, mutuelles, significatives de l'économie sociale et solidaire, et dont certaines fonctionnent selon le principe de l'autogestion. Ces formes organisationnelles sont présentées ici comme une alternative au capitalisme libéral. Travailler sans patron nous parle de femmes et d'hommes qui mettent en avant des valeurs de solidarité et d'entraide comme solution aux antagonismes et qui, dans le cadre de leurs activités, mettent en place des pratiques anti-autoritaires fondées sur des principes de liberté individuelle et de démocratie directe. Les auteurs montrent les difficultés propres, mais aussi la force et le pouvoir émancipateur de ces structures. Simon, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes ravis de t'accueillir ce soir à Radio Libertaire. Première question, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce bouquin ?
Oui, alors d'abord, merci aussi pour l'invitation. Eh bien alors, pour la genèse, en fait, il y en a plusieurs, parce qu'on est deux, on l'a écrit à quatre mains, ce livre. Alors moi, pour ma part, j'ai milité pendant longtemps pour le droit au logement, contre la précarité, et puis en plus divers mouvements sociaux dans des syndicats. Évidemment, j'ai expérimenté les difficultés de l'autogestion. Et Baptiste aussi, qui est un économiste décroissant, mais qui a aussi une carrière, il a aussi travaillé dans des coopératives, notamment dans des coopératives de distribution alimentaire.
Il est prof à Sciences Po Lyon, je crois.
Il est prof à Sciences Po Lyon, mais il a une multitude d'activités. Voilà, il n'est pas titulaire encore, et on espère qu'il le sera un jour. Et alors, du coup, le livre, en fait, c'est le fruit d'une rencontre. Et en fait, de mon côté, en fait, un jour, je lui ai expliqué que. À l'époque, je présentais un autre livre qui s'appelle « C'est pour la bonne cause, les désillusions du travail associatif ».
En fait, c'est un livre où j'interroge, je me demande pourquoi en fait les conditions de travail dans le monde associatif sont moins bonnes qu'ailleurs. Hein, dans le monde associatif, hein, donc c'est 1,8 million de salariés, enfin surtout des femmes. Hein, et ce qu'on observe, c'est que les salaires sont plus bas. Les cadres gagnent 14 à 30% de moins que dans le secteur privé ou dans le secteur public. Il y a le temps partiel est beaucoup plus développé et souvent subi. Il y a beaucoup plus de CDD. Hein, le CDD, le contrat à durée déterminée, c'est la norme et non pas la CDI. Bref, tout ça, ça nous fait dire que dans le monde associatif, c'est le salariat atypique qui est typique. Donc ça, c'est un autre sociologue qui dit ça, c'est Mathieu Ely. Voilà, donc moi, je suis parti de ce constat-là. J'ai étudié pour essayer de comprendre pourquoi, en fait, les conditions de travail dans les assos sont moins bonnes. Donc du coup, il y a des causes externes, hein, clairement. Elles sont mal financées, elles sont positionnées sur des secteurs qui sont mal financés par la puissance publique. Et aussi, il y a des facteurs internes. Le fait de travailler avec des bénévoles pour la cause, et aussi pour des patrons et des employeurs, en fait, qui sont eux-mêmes des bénévoles et qui ont du mal à